Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens. Nous sommes jeudi déjà et c'est le 18 janvier 2018. Hélène Denis avec vous et aussi avec Mathieu Tessier. Comment allez-vous, Mathieu?
Je vais très bien, merci.
Vous me faites rire avec votre T-shirt où on dit gaminet, mais tout le monde dit T-shirt, qui s'intitule Stop Wars, mais avec la même calligraphie que le film Star Wars.
Voilà, j'avais croisé quelqu'un il y a quelques années qui avait un chandail similaire. Ça m'a pris du temps à en trouver et voilà.
Oui, est-ce qu'il vous a coûté cher?
Non, pas du tout.
Mais c'est un beau message,
oui,
ça.
Tout à fait.
Stop Wars.
En fait, ça attire énormément l'attention parce que tous les gens pensent que c'est un chandail de Star Wars.
Oui. Et quand on regarde de plus près.
Comme il faut.
Oui, c'est voilà. Ça l'intention derrière.
Voilà.
Alors, mon cher, est-ce que vous êtes prêt pour la chronique éphéméride?
Bien sûr. Entendez-vous les vagues?
J'aimerais ça.
Parce que savez-vous que le 18 janvier 1778, James Cook découvre l'archipel d'Hawaï?
Ah!
Et là, je me cherchais un petit style guitare, mais je n'ai pas eu le temps. Mais vous pouvez vous
Êtes-vous
imaginer.
Êtes-vous déjà allé à Hawaï?
Non.
Il y en a qui disent Hawaï, mais
Hawaï,
c'est Hawaï.
Hawaï, ben, il y a deux I ou un I tréma. Ouais.
On ne dit pas Miami.
C'est exact.
Alors, c'est Cook qui
Oui,
a
Cook
découvert.
En 1778. En 1849, le gouverneur général James Bruce, Lord Elgin, prononce le premier discours du trône en français et en anglais à l'Assemblée du Canada uni. En 1871, dans la Galerie des Glaces au château de Versailles, alors que ses troupes assiègent Paris, Guillaume Ier est proclamé Kaiser, souverain du nouvel empire allemand, le Deuxième Reich. En 1911, dans la baie de San Francisco, Eugène Ely pose son Curtis, qui est un avion, sur une plateforme du croiseur Pennsylvania, lors du tout premier appontage sur un navire. Donc, l'art de poser son avion sur un bateau. En 1919, à Versailles, s'ouvre la conférence où sera négocié le traité mettant fin à la guerre 1914-1918. Toujours un 18 janvier, en 1938, à Saint-Hyacinthe, l'incendie du collège Sacré-Cœur fait malheureusement 49 morts. 1958, intégration des joueurs afro-américains dans la LNH. Toujours un 18 janvier 1971, le CRTC établit un minimum de contenu canadien pour les chansons à la radio, soit 30% entre 6h du matin et minuit. Ça ne date donc pas d'hier. En 1990, à Washington, le maire Marion Barry est arrêté. Il avait été filmé en train d'acheter et de fumer du crack. En 1999, la neige déchire la toile du Stade olympique à Montréal. Le salon de l'auto et le salon nautique sont annulés. Pardon. Et le constructeur européen. En 2005, Airbus présente à Toulouse-Blagnac l'A380, le plus gros avion de l'histoire de l'aviation commerciale. Et pour ce qui est des naissances, le coureur automobile Gilles Villeneuve est né en 1950 à Berthierville. Et le comique Olivier Hardy à Harlem est né en 1892. Il nous a quittés en 1954. Et pour ce qui est des décès, la militante des droits Simone Monnet-Chartrand nous a quittés en 1993, elle qui était née en 1920. Et en 1936, le décès du poète et romancier anglais Rudyard Kipling, lui qui était né en 1865.
Oui, Rudyard Kipling, l'enfant, comment ça s'appelait? On l'a étudié à l'école quand on était tout petit.
Je dois avouer que je n'écoutais peut-être pas cette journée-là.
Mowgli, dans la jungle, ça vous dit rien?
Ah, ben oui. Le livre de la jungle.
C'est cela, à deux, c'est bien mieux. Merci Mathieu.
Ça fait plaisir.
À la une de la presse, la mort par la poste, surnommée Pink ou Pinky. L'U-47-700 a fait une première victime au Québec, a appris la presse. Le père du jeune homme mort d'une surdose de cette drogue de synthèse nouvellement interdite au Canada presse les autorités de s'attaquer au fléau de la livraison postale d'opioïdes. Affaires dans le ventre d'Hydro-Québec. Ils gèrent la consommation d'électricité de minute en minute. La presse a suivi leurs opérations par un froid matin de janvier. La chronique d'Yves Boisvert, PKP, chef de l'opposition. Et pause repas, sauver la planète, une paille à la fois. La chronique d'Yves Boisvert, Pierre-Carl Péladeau a quitté son poste de chef du PQ pour redevenir PDG de Québecor, mais il n'a pas quitté la politique pour autant. Considérez quelques-uns des thèmes de ses interventions sur Twitter et Facebook seulement depuis Noël. Ça va des transports en commun et de l'engorgement de nos routes aux problèmes du réseau de la santé, en passant par l'inefficacité de l'UPAC et l'aide du gouvernement libéral à Bombardier, un de ses sujets préférés, de l'ineptie des politiques de Justin Trudeau dans le domaine de la justice fiscale à la nécessaire modernisation d'Hydro-Québec. Le champ de ces interventions est vaste, comme on voit, et le ton accusateur face au gouvernement libéral, on le devine. À le lire, on est bien forcé de se demander si le plus important propriétaire de médias au Québec n'est pas une sorte de chef de l'opposition en réserve de la République du Québec. On le sait par ses déclarations sur Facebook. C'est à regret qu'il a quitté la politique pour des raisons familiales en mai 2016, un an à peine après avoir été élu chef du Parti québécois. Il en a tenu responsable son ex-conjointe Julie Snyder. Veut-il revenir un jour à cette question des journalistes quand il s'est présenté au congrès du PQ l'an dernier? Il a répondu par un mystérieux « Dieu seul le sait ». Plus mystérieux encore, personne n'a semblé s'étonner de voir un propriétaire de journaux assister au congrès politique du parti qu'il avait dirigé. L'entente est en apparence cordiale entre son successeur Jean-François Lisée et M. Péladeau, même s'il n'a pas pu oublier ce jour où M. Lisée avait allumé la mèche de son conflit d'intérêts permanent de chef politique baron de la presse. Mais la suractivité de M. Péladeau sur les réseaux sociaux fait un peu pâlir chaque jour la couleur de M. Lisée. Sur Twitter, son style est incisif, agressif même, et il ne ménage aucun punch. Que ce soit le duo Charest-Couillard ou le gouvernement de docteurs du PLQ, Couillard-Bolduc-Barrette, pris dans un conflit d'intérêts perpétuel, ça reste 15 ans d'incapacité à penser la santé autrement que par les préoccupations des médecins. Et les patients? Au sujet de l'escouade permanente anticorruption, il ne se gêne pas pour l'accuser de s'occuper de broutilles, et de ne pas faire le travail dans les gros dossiers, comprendre l'ancien gouvernement libéral de Jean Charest. Bref, il ne se contente pas de tweeter sur le monde des communications et des affaires. Il est carrément et joyeusement dans la mêlée politique. De nos jours, les cas de propriétaires de médias nationaux qui interviennent dans le débat politique en dehors des questions touchant leur industrie sont assez rares en Amérique du Nord. Conrad Black est une exception notable. Historien de formation, auteur à la plume efficace, il a fait publier régulièrement des commentaires dans les pages de son National Post, qu'il a fondé pour offrir une voix aux idées conservatrices. Il lui est arrivé aussi de signer des articles dans d'autres journaux. Il n'a toutefois jamais dirigé de formation politique ni donné l'impression d'avoir cette ambition. Ses sorties n'en provoquaient pas moins des remous. PKP? L'idée qu'un propriétaire de médias majeurs et ex-chef de parti devrait faire preuve d'une réserve dans ses commentaires politiques est sans doute devenue antique et presque romantique. Personne, en tout cas, ne semble s'émouvoir des élans de M. Péladeau. Les journalistes des médias concurrents sont dans une position inconfortable pour aborder le sujet. Tout ça va pourtant bien plus loin que les interrogations sur la nostalgie politique ou les projets de M. Péladeau. Il devrait y avoir une sorte de malaise à voir celui qui détient des organes d'information parmi les plus importants dans son marché se transformer en acteur politique et donner l'impression de sonner la charge sur tous les sujets imaginables. On ne parle pas d'un chroniqueur ici, ni de ses opinions largement partagées. Il ne manque pas de commentateurs dans tous les médias pour lancer des flèches à Gaétan Barrette, Philippe Couillard ou l'UPAC. La question est celle du mélange des genres. Prenons un exemple tout chaud. Depuis plusieurs semaines, M. Péladeau se plaint du prêt de 10 millions accordé par Québec à Capital Média qui regroupe Le Soleil et les journaux régionaux autrefois propriétés de GESCA, de la famille Desmarais, toujours propriétaire de la presse. M. Pelladeau soulève ici une excellente question. Selon quels critères ce groupe a-t-il reçu cette aide? Pourquoi eux et le devoir, 526 000 $ et pas Québécois? Ils ne se contentent évidemment pas de critiquer ou de soulever la question. Ils donnent la réponse. C'est parce que Martin Cochon est un ancien ministre libéral, fédéral, et donc un ami du pouvoir à Québec. Le commentaire est cinglant, mais il est légitime compte tenu des apparences. Mais PKP n'arrête pas là non plus. Il interpelle directement des journalistes, dont le chroniqueur Gilbert Lavoie du Soleil, qui avait dénoncé sa visite au bureau des journalistes de Québecor à l'Assemblée nationale l'an dernier. Imagine-t-on que le propriétaire du Toronto Star soit un ancien chef de l'opposition en Ontario et s'en aille visiter ses journalistes dans l'enceinte du Parlement? M. Pelladeau s'en est également pris à un autre journaliste, Conrad Yakabuski du Globe and Mail, pour un article prétendument de mauvaise foi à son sujet. Le journaliste a répliqué « Merci à PKP Québec pour la plug, mais je vous assure que moi et mes collègues sommes de bonne foi. D'ailleurs, il est très malsain pour la démocratie quand les gens puissants s'attaquent à l'intégrité des vrais journalistes comme le fait Real Donald Trump. » Ça n'a pas impressionné le PDG de Québecor. Hier, dans un autre tweet, il s'en prenait au Soleil qui avait dévoilé en exclusivité une décision du gouvernement libéral après avoir reçu 10 millions de dollars de la part du gouvernement du chef du PLQ, Philippe Couillard, bien normal que de se faire le messager de ses politiques et le véhicule médiatique privilégié. Voilà la démocratie du A commercial libéral Québec, alors c'est le langage de Twitter. Bref, il accuse carrément le journaliste qui a sorti un scoop comme il s'en sort à l'appel à Québec, d'être à la solde du gouvernement. Ce propriétaire de médias professionnels, il avance ça de manière totalement gratuite et s'attaque à l'intégrité d'un journaliste qui n'a fait que rapporter avant d'autres une information. Qu'il critique le régime de soutien à la presse écrite, c'est parfait, mais qu'il commence à viser des journalistes professionnels pour mieux attaquer ses concurrents ou le gouvernement, cela dépasse les bornes. Tout ça est malsain, étant donné les fonctions actuelles et passées de M. Pelladeau. Pour l'instant, il est PDG d'une très grande entreprise de communication et devrait montrer un peu mieux qu'il comprend la différence entre son ancien job de politicien, même s'il s'en ennuie, et sa nouvelle, même si elle n'est que temporaire. Protection de la jeunesse, la ministre Charlebois préoccupée. La ministre responsable de la protection de la jeunesse s'est dite « préoccupée » entre guillemets par la situation d'un enfant renvoyé dans sa famille biologique avant que celle-ci ne soit évaluée par un juge excédé par le fouillis qui régnait dans son dossier. Le magistrat a aussi durement critiqué la DPJ Mauricie Centre du Québec pour un manquement important à ses devoirs dans le dossier du garçonnet de 2 ou 3 ans qui traînait depuis des mois devant la justice. La presse a levé le voile sur ce cas hier matin. La ministre s'est dite préoccupée par la situation. L'établissement procédera dans les prochaines semaines à une revue critique de la situation. Il sera question de revoir et d'analyser de façon précise et minutieuse chaque étape de l'intervention afin d'identifier les manques s'il y a lieu et de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation, a indiqué par courriel Alexandra Régis, attachée de presse de Lucie Charlebois. Revers important pour TVA Sports devant le CRTC. TVA Sports vient de subir un revers lourd de conséquences financières. Elle n'aura pas droit à des redevances similaires à celles de RDS de la part du télédistributeur Bell. En arbitrage, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a choisi l'offre de redevances de Bell, une offre qui, selon Québecor, empêcherait TVA Sports d'atteindre la rentabilité au cours des 5 prochaines années. Malgré cette prétention de Québecor, le CRTC estime que l'avenir de TVA Sports n'est pas compromis. Et je termine en vous décrivant la caricature de Serge Chapelot aujourd'hui. Alors, c'est Alexandre Cloutier, CV en main, suivi par Agnès Maltais. Aussi Nicole Léger, CV en main, François Gendron, les bras croisés, devant la porte sur laquelle est écrite « Les ex ». Vous savez, cette émission, c'est un clin d'œil donc à l'émission qui met en vedette des politiciens devenus chroniqueurs.
Dans ma ville grise, de presque Amérique, je m'ennuie. Le vent me dégrise, il fait froid sous la pluie. Mais dans ce pays, même pour s'ennuyer, faut s'habiller. Comme c'est ennuyant de ne pas pouvoir comme les papous noirs s'ennuyer sans bottes de pluie, s'ennuyer sans manteau de pluie, s'ennuyer sans bottes de neige, s'ennuyer sans manteau de neige. Et pouvoir tout nu crier à la terre qu'on n'est ni de France ni d'Angleterre. Nos Indiens travaillent en usine ou dans des mines à pousser de mine en haut des États-Unis. Dans ma ville grise de presque Amérique, je m'endors. Le vent du nord, engourdi, je m'enlise. Demain, si la mort ne m'abrille pas, je ferai ma valise. Et je crierai, please take me on Broadway ou on Carnegie Street. Please help me in. I need your swing. I want to see what's happening. Let me feel cool before I freeze. Being proud is for fun and peace, 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 peace. Quand je reviendrai par l'autre chemin, vous serez anglais. Américain, où vous serez mort pour de pâles folklore et quelques promesses d'or. Poussez de mille en haut des États-Unis.
Complainte de presque Amérique que nous chantait Robert Charlebois.
En une du Devoir maintenant, jeudi 18 janvier 2018, superbe photo hivernale. Les patineurs pourront toujours se rabattre sur la patinoire réfrigérée le temps que Montréal trouve un lieu propice pour recréer une glace naturelle. C'est en lien avec la nouvelle intitulée « Lac au castor, Montréal abandonne la patinoire naturelle ». Inconduite sexuelle, un médecin radié pour 5 ans, les professionnels qui abusent de leur position sont maintenant punis plus sévèrement. Rencontre, tirer un trait sur l'épisode de Neuve. La dessinatrice Emma invite les femmes à resserrer les rangs et à revenir à l'essentiel. Une entrevue avec Annabelle Caillou. Son nom vous a peut-être échappé, mais sa bande dessinée sur la charge mentale a dû vous marquer le printemps dernier. La dessinatrice et blogueuse française Emma est de passage à Montréal quelques jours seulement après avoir de nouveau aiguisé ses crayons pour réagir à la lettre co-signée par une centaine de Françaises qui s'attaquaient au mouvement « Moi aussi ». Culture, la chronique d'Odile Tremblay, à l'écoute des voix discordantes, les femmes, avec les hommes, gagnent à entrechoquer leurs témoignages pour mieux ouvrir l'avenir, écrit notre chroniqueuse, donc Odile Tremblay. Science, le bon et le mauvais côté des nanoparticules. Salaire minimum, 12 $ l'heure, c'est trop ou trop peu? La patinoire naturelle du lac aux Castors sur le Mont-Royal est maintenant chose du passé. Sans tambour ni trompette, la Ville de Montréal a décidé de fermer définitivement la surface glacée aménagée chaque année sur le plan d'eau depuis les années 30, après qu'un incident est survenu l'hiver dernier. Les amateurs de patins devront donc se rabattre sur la patinoire réfrigérée beaucoup plus petite. En 2012, la Ville avait entrepris des travaux de réaménagement du lac aux Castors, lourdement affecté par la prolifération de plantes aquatiques. Les travaux, qui ont duré 3 ans, ont fait en sorte que le bassin est désormais plus profond avec plus de 6 mètres d'eau. Or, l'hiver dernier, la glace a cédé sous le poids d'un camion d'entretien, a indiqué au Devoir Luc Ferrandez, responsable des grands parcs au comité exécutif. 2 ans auparavant, un incident du même genre était survenu sur la patinoire, a confirmé la Ville. Au terme de la saison hivernale de 2016-2017, la Ville a finalement décidé de fermer la patinoire pour de bon. On ne peut pas prendre le risque que quelqu'un ou un camion passe au travers de la glace lors des redoux. La patinoire réfrigérée, qui a été inaugurée en 2006, demeure cependant ouverte. La Ville promet d'aménager une patinoire naturelle à proximité du lac aux Castors. Nous allons la relocaliser. Il n'est pas question de mettre fin à cette activité traditionnelle des Montréalais sur la montagne, a affirmé M. Ferrandez. Les amis de la montagne sont déçus de la décision de la Ville et disent avoir reçu de nombreuses plaintes de patineurs. Un médecin radié pour 5 ans, une radiation de 5 ans imposée à un médecin de Montmagny, reconnu coupable de gestes sexuels abusifs à l'égard d'une patiente, est la première prononcée en vertu des sanctions plus sévères prévues depuis juin 2017 en cas d'inconduite sexuelle par des professionnels. Une décision qui annonce un vent de changement, selon le Collège des médecins. On estime que la loi commence à porter ses fruits. C'est un changement de paradigme. Il était temps que les sanctions soient proportionnelles aux actes et aux infractions commises, a fait valoir mercredi le docteur Charles Bernard, président du Conseil des médecins du Québec. Ce dernier réagissait à une décision du Conseil de discipline du Collège, rendue publique mercredi, ayant pour effet de radier pour 5 ans le docteur Jean-François Rancourt, déjà frappé par une radiation d'urgence provisoire réclamée l'été dernier à la suite de nouvelles plaintes déposées par des patientes. Cette décision est la première à survenir depuis le changement apporté le 8 juin dernier à un article du Code des professionnels qui rend les infractions à caractère sexuel passibles d'une peine d'au moins 5 ans et d'amende minimale de 2 500 $, à moins que le professionnel ne fasse la preuve que des raisons justifient une peine moindre. Cela va amener plus de patientes à avoir le courage de porter plainte, dit le docteur Charles Bernard. Élection, l'inaction, ça ne sert à rien. La fille de Félix Leclerc saute dans l'arène sous la bannière péquiste. Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, s'est affairé mercredi à tourner la page sur les annonces de démission en cascade au sein de sa formation politique. Pour y arriver, il a officialisé la candidature de Nathalie Leclerc, une recrue dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré, le 1er octobre prochain. Nathalie Leclerc applaudit à la stratégie d'accession à l'indépendance en 2 temps. Chasser les libéraux en 2018, faire l'indépendance en 2022, adopté par les délégués du PQ en septembre dernier. « Ça manque de rêve aujourd'hui, vous ne trouvez pas? » a dit Nathalie Leclerc. « Je suis la fille de Félix Leclerc. La vie m'a fait ce magnifique cadeau. Je ne peux pas le nier. Ma décision d'être candidate relève beaucoup de lui. Vous savez, les yeux de mon père, a-t-elle lancé. Le regroupement étudiant le plus militant du Québec est au bord de l'éclatement. Le titre « L'AC est au bord de l'implosion ». L'Association pour une solidarité syndicale étudiante, qui a connu son heure de gloire au printemps 2012, fait face à une tentative de dissolution pure et simple qui sera débattue en congrès le mois prochain. Selon ce que Le Devoir a appris, la crise interne qui déchire l'AC depuis au moins 3 ans a atteint un point critique. 7 des 8 postes de l'exécutif sont vacants. Les associations étudiantes locales sont démobilisées, certaines ont cessé de payer leurs cotisations et de graves questionnements planent sur l'état des finances du mouvement. L'acquittement de Sabrine German relativement au chef de possession d'explosifs à des fins terroristes a été porté en appel mercredi par la Couronne fédérale. Le juge du procès a commis une erreur de droit en donnant au jury des directives erronées quant à l'interprétation et la portée de la définition de substance explosive, peut-on lire dans l'avis d'appel déposé au Palais de justice de Montréal. La femme de 21 ans a subi son procès cet automne aux côtés de son conjoint Elmadi Jamali, âgé quant à lui de 20 ans. Le couple faisait face à des accusations de terrorisme, dont celle d'avoir tenté de quitter le Canada en vue de compromettre un acte terroriste à l'étranger ou de commettre un acte au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste. Et la caricature du devoir, la fille de Félix Leclerc, candidate pour le PQ. On voit Nathalie Leclerc chanter « Attends-moi, Tigot, tu vas tomber si je suis pas là ». Puis Jean-François Lisée, sur le bord de tomber, qui répond « Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou ».
La voisine a ri de nous autres parce qu'on avait 12 enfants. Pour changer son fusil d'épaule, depuis qu'elle en a autant. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Le patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Il est joli, il est riche, il est poli. Mais une chose l'ennuie, c'est son valet qui a le génie. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Parce que j'avais pas de manteau, j'ai pris la peau de mon chien. Tu vois qu'il n'y a pas plus salaud que moi qui chante ce refrain. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Quand on me dit va à droite, c'est à gauche que je m'attelle. Pour qu'aux enfers on rejette, on s'en verra peut-être au ciel. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Couplet censuré. La veille des élections, il t'appelait son fiston. Le lendemain, comme de raison, il avait oublié ton nom. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Quand monsieur le curé raconte que la paroisse est pleine d'impies, c'est pas à cause des péchés, c'est que les dîmes sont pas payées. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Merci à Garnotte et sa caricature qui nous rappela cette merveilleuse chanson « Attends-moi, petit gars » que nous chantait Félix Leclerc.
À la une du Journal de Montréal, une bonne nouvelle, sa vie sauvée grâce à un nouveau laser. Atteinte d'une tumeur inopérable au cerveau, Maude Couture était constamment terrassée par des crises d'épilepsie jusqu'à ce qu'elle soit opérée à l'aide d'une nouvelle technologie qu'utilise l'hôpital Sainte-Justine. Québec et Toyota s'entendent pour tester l'auto à hydrogène. Et parlant d'auto, les nouveautés du Salon de Montréal, cahier spécial à l'intérieur. L'auto à hydrogène roulera au Québec. Le fabricant japonais veut profiter de l'enthousiasme des Québécois pour les voitures sans émissions. Le Québec deviendra cette année le banc d'essai canadien pour les véhicules à hydrogène de Toyota, a appris le Journal de Montréal. Le gouvernement, par le biais de l'organisme Transition énergétique Québec, souhaite voir rouler une cinquantaine de voitures à hydrogène dans le cadre d'un projet pilote. À l'ouverture officielle du Salon international de l'auto de Montréal aujourd'hui, le géant Toyota présentera sa nouvelle Mirai, ou Mirai, signifie, j'imagine que c'est Mirai, M-I-R-A-I, qui signifie « avenir » en japonais, une berline propulsée à l'hydrogène. Le ministre des Ressources naturelles, Pierre Moreau, sera sur place. Son bureau a refusé de donner plus de détails sur le projet pilote dont l'annonce devrait avoir lieu aujourd'hui, mais qui aurait été reporté. Par contre, on sait qu'aucun fonds public ne serait nécessaire pour l'instant. Il pourrait fermer en raison d'une erreur de fonctionnaire. Un bar montréalais ouvert depuis juin est menacé de fermeture après que l'arrondissement se soit aperçu qu'il n'aurait jamais dû lui délivrer de certificat d'occupation. Les voisins du bar Playground, situé sur la rue Notre-Dame-Ouest dans le quartier Griffintown, se sont plaints à l'arrondissement du Sud-Ouest du bruit émanant de l'établissement. Une centaine de personnes peuvent s'y retrouver souvent jusqu'à 3 heures du matin. Le bar a obtenu son permis d'alcool en avril dernier et a ouvert en juin. Or, un fonctionnaire de l'arrondissement n'aurait jamais dû remettre au propriétaire le certificat d'occupation nécessaire à l'obtention d'un permis d'alcool en vertu du règlement de zonage. L'arrondissement du Sud-Ouest a réalisé la faute de son employé du bureau des permis en octobre et tente depuis de lui retirer cette autorisation donnée par erreur. Le propriétaire du bar, Alexander Karpov, n'a pas l'intention de céder et de fermer son commerce. Il dit avoir été très surpris il y a 3 mois d'apprendre la bourde du fonctionnaire. Il a lancé une pétition vendredi afin d'assurer la survie de son établissement, recueillant plus de 460 signatures en quelques jours avant d'être retiré du web. Une intervention au laser au cerveau change sa vie. La tumeur d'une ado de Laval était inopérable sans cette nouvelle technologie. Une adolescente de Laval a pu retrouver une vie normale grâce à une nouvelle opération au laser qui a détruit sa tumeur au cerveau sans qu'il eût été nécessaire de lui ouvrir le crâne. Le premier laser neurochirurgical pour enfants du Canada à l'hôpital Sainte-Justine a détruit la tumeur bénigne qui l'incommodait depuis 2 ans. Fini les crises d'épilepsie survenant sans crier gare qui terrorisait Maude Couture. Il s'agit d'une nouvelle technologie qu'utilise l'hôpital Sainte-Justine depuis l'an passé grâce à un don de 600 000 $ de l'organisme Curling pour les enfants. Sans ce laser, la tumeur de Maude Couture était inopérable selon les médecins. Le laser neurochirurgical pour enfants est une technologie révolutionnaire selon le médecin de l'hôpital Sainte-Justine qui l'a utilisé à 6 reprises depuis 1 an. C'est un « game changer ». Des enfants qui étaient inopérables à cause des risques peuvent maintenant l'être opérés, lance le neurochirurgien pédiatrique Alexander Weil. Il était jusqu'à récemment le seul spécialiste au pays à pouvoir utiliser cette technologie, dont un hôpital de Toronto a aussi fait l'acquisition. Il a appris à s'en servir lors d'une formation à Miami, en Floride. L'outil lui permet de traiter les tumeurs au cerveau, cancéreuses ou non, ou les masses qui peuvent causer des crises d'épilepsie. Ça brûle, c'est un dommage thermique, explique-t-il. C'est beaucoup plus précis et beaucoup moins invasif, dit le Dr Weil. Une firme de marijuana s'excuse auprès de l'ancien joueur vedette du Canadien, Guy Lafleur, qu'elle a associé faussement à un méga projet d'usine de potes dans les cantons de l'Est. Notre bureau d'enquête a révélé que le président d'une filiale de MYM, Yann Lafleur, disait être le neveu du démon blond sur le site Internet de sa compagnie. Pourtant, ouvertement opposé à la légalisation du pot, Guy Lafleur n'en croyait pas ses yeux lorsque nous lui avons présenté mardi le communiqué de presse émis par MYM Nutraceutical de Vancouver. Yann Lafleur, président de Cana Canada Inc. et le neveu de la superstar de hockey canadienne Guy Lafleur, vantait le communiqué publié en juin sans le consentement de l'ancien numéro 10 du CH. Selon l'entreprise publique inscrite à la Bourse nationale canadienne, la personne qui a rédigé le communiqué s'est basée uniquement sur des propos rapportés par un tierce et jamais vérifiés pour établir un lien familial entre Yann et Guy Lafleur. Un cas classique de téléphone arabe, explique-t-elle. Ménage en vue chez les cadres du SPVM, des cadres de la police de Montréal pourraient bientôt quitter leur bureau pour retourner sur le terrain, selon le chef intérimaire Martin Prudhomme, qui veut revoir l'utilité de chaque poste comme il l'a fait à son arrivée à la Sûreté du Québec en 2014. Il faut revenir à la mission première du service de police, le terrain. Si je peux identifier des postes de cadres à travers la structure et récupérer des policiers pour les ramener sur le terrain, c'est ce que je vais faire. C'est mon premier objectif, a affirmé Martin Prudhomme en présentant le budget du service de police aux élus de l'Hôtel de Ville hier. L'ancien chef d'Option nationale, Sol Zanetti, se présentera dans la circonscription de Jean Lesage pour Québec solidaire. On avait eu une bonne réflexion où j'allais me présenter. Finalement, j'ai opté pour le choix de la circonscription locale, celle où j'habite et où je me suis déjà présenté. Je suis un gars de Québec et j'y ai habité toute ma vie, sauf 2 ans à Lévis, a lancé M. Zanetti en entrevue. Il annoncera officiellement aujourd'hui qu'il se présentera à l'investiture de Québec solidaire et à l'appui de Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. Le parti indépendantiste Option nationale et Québec solidaire ont fusionné en décembre dernier. La circonscription est présentement détenue par le libéral André Drolet, qui l'a remporté en 2014 avec 4 200 voix de majorité devant la CAQ. QS avait terminé quatrième avec 11,6 % des suffrages. La tâche ne sera donc pas facile pour M. Zanetti. Le président américain Donald Trump s'exprimera vendredi par lien vidéo lors de la Marche pour la vie à Washington, grand rendez-vous annuel des militants pro-vie, c'est-à-dire opposés à l'avortement. M. Trump deviendra le premier président en exercice à s'exprimer lors de la March for Life par lien satellite depuis la Maison-Blanche, a indiqué hier Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif américain. En 2017, le vice-président Mike Pence s'est exprimé lors de ce rassemblement organisé sur la National Mal, qui jouxte la Maison-Blanche, ou Mail plutôt. La Marche pour la vie marque un anniversaire considéré comme funeste par ses participants. Roe v. Wade, l'arrêt emblématique de la Cour suprême qui a légalisé l'avortement en 1973 dans tous les États-Unis. Thank you. Et finalement, le pape François a fermement condamné hier tout recours à la violence pour faire entendre les revendications des indigènes lors d'une messe célébrée dans le sud du Chili, fief des Mapuches et théâtre d'attaques contre des policiers des églises. Quelques heures avant son arrivée dans la région de l'Araucanía, à plus de 600 km au sud de San Diego du Chili, plusieurs attaques aux engins incendiaires ont visé la police, trois églises catholiques et un temple protestant. Trois hélicoptères anti-incendie d'entreprises forestières ont également été endommagés. La veille, deux petites églises avaient été totalement détruites. Les auteurs de ces attentats ont laissé derrière eux des tracts faisant allusion aux demandes mapuches de restitution des terres. Le pape a largement dédié la messe célébrée sur un aérodrome désaffecté qui a servi de centre de détention et de torture sous la dictature d'Augusto Pinochet aux victimes du régime militaire.
La chanson Montreal ou Montréal, chantée par Joey Cape.
La tournée des journaux régionaux, défi ski, le camp, former vos équipes pour la cause. C'est dans le Nouvelliste, Brigitte Trahan qui signe cet article. Le défi ski, le camp revient le 17 mars à Vallée du Parc. Il s'agit cette année de 8 heures consécutives de ski de midi à 20 heures. En plus de devoir faire au moins une descente à l'heure, les équipes participantes seront confrontées à divers défis complémentaires d'agilité, de mémoire et de connaissances générales pour pouvoir cumuler des points dans le but de gagner les prix qui seront attribués. Cette année, l'organisation espère attirer 120 participants par rapport à 92 l'an dernier. L'objectif est d'amasser 40 000 $, indique Catherine Gélina. Pour s'inscrire, il faut aller à defiski.com. On peut former des équipes d'une à quatre personnes qui, pour participer, doivent amasser un minimum de 500 $ en dons pour le camp. Les fonds accumulés par le biais des activités de financement de l'UQAM servent à aider les familles dont un enfant est atteint du cancer, que ce soit pour les déplacements vers les grands centres pour les traitements, pour diverses activités de soutien comme les camps d'été ou les camps d'automne, la fête de Noël ou des séances de massothérapie. La petite Juliette, 6 ans, bénéficie directement de cette aide. Elle a reçu un diagnostic de cancer du système lymphatique il y a un peu moins de 2 ans. Le camp a signé une agente qui sert de soutien moral à toute la famille. On peut pleurer, on peut se défouler. Elle est tout le temps là pour nous écouter, raconte Magali Aubin, la mère de la fillette, reconnaissante de cet appui. Madame Aubin dit que les premiers symptômes de Juliette se sont présentés sous forme d'une bosse sur le front. Après de multiples tests, une biopsie effectuée à l'hôpital Sainte-Justine a permis d'obtenir un diagnostic. Les traitements de chimiothérapie d'une durée de 2 ans prendront fin en juillet prochain. Juliette a aussi eu besoin de quelques transfusions sanguines. Ça implique beaucoup de traitements, raconte Mme Aubin. L'agente de l'UQAM a aussi rencontré la classe de Juliette pour expliquer aux enfants que le cancer n'est pas contagieux, raconte Mme Aubin. Elle a aussi rencontré les élèves de la classe de l'autre enfant de la famille Aubin, Delphine. La famille a de plus reçu de l'aide financière mensuelle de l'UQAM pour pouvoir faire face à cette épreuve. C'est donc en s'amusant que la population est invitée à soutenir l'œuvre de l'UQAM. Au cours du défi ski, des descentes thématiques payantes seront proposées tout au long de la journée et des surprises seront dissimulées dans la montagne, indique Catherine Gélina. Un souper, des stands d'animation, un 5 à 7 sur la terrasse, de même que des prestations de divers artistes, seront offerts au cours de la journée. Des prix de participation seront remis, notamment 4 paires de skis offertes par Brunel Ski Vélo, à l'équipe qui aura amassé le plus d'argent. Une 5e paire sera tirée parmi les participants. Le président d'honneur de cette année, David Bélanger, directeur général des Caisses Desjardins de Trois-Rivières, prend part au défi ski depuis 3 ans. Monsieur Bélanger trouvait naturel d'impliquer Desjardins dans ce projet et élargir son implication aux employés de Desjardins au niveau de la collecte de fonds. On va être là financièrement, assurément, mais on va être là en personne, assure-t-il. Alors, je vous rappelle que le défi ski Le Camp aura lieu à Vallée du Parc le 17 mars. Dans le droit, Louis-Denis et Bachère, vol de cuivre aux toilettes du palais de justice. Une petite commotion a frappé la faune du palais de justice de Gatineau mercredi. Un individu, visiblement tenté par le profit immédiat, a arraché des tuyaux de cuivre rattachés aux toilettes du 2e étage de l'édifice Joe Montferrand sur l'heure du dîner. Il a pu fuir en catimini. À l'insu du personnel de sécurité, un individu a réussi à détacher des composantes de la plomberie en s'immisçant probablement derrière le mur des toilettes. Il semble que l'individu de petite stature a pu pénétrer par un clapet d'un pied et demi par un pied, donnant accès au système de plomberie situé derrière les murs des cabinets d'aisance. Le cuivre a une certaine valeur auprès de ferrailleurs. L'enquête se poursuivait toujours mercredi après-midi, alors que le ou les suspects couraient toujours. Quelques officiers de la justice parlaient de l'affaire pendant la pause café, tentant de se rappeler qui ils avaient bien pu croiser plus tôt. Le larcin se serait produit vers 13 heures dans les toilettes des hommes du deuxième étage. Il semble qu'une autre tentative de vol au premier étage ait avorté. Au moins 4 toilettes ont été condamnées temporairement. Saguenay a été condamné à payer 286,54 $ pour le remplacement du téléphone cellulaire d'une citoyenne qui l'avait échappé et cassé après avoir été frappée sur sa galerie par la neige projetée par une souffleuse de la ville. C'est dans le quotidien Pascal Girard. C'est ce qui ressort d'un jugement rendu le 20 décembre dernier en chambre civile de la Cour du Québec par le juge Pierre Simard. Alors qu'elle revenait à sa résidence et qu'elle se tenait sur sa galerie, la dame reçoit une bonne quantité de neige projetée par la souffleuse de la ville qui déneige la rue après une tempête. Elle échappe le cellulaire qu'elle tenait. En heurtant le sol, l'objet se brise, est-il écrit dans le jugement publié cette semaine. La date et le lieu de l'événement ne sont pas mentionnés dans le document. Le recours a cependant été intenté le 20 mars dernier. Lors de l'audience du 8 novembre, Saguenay avait délégué comme seul témoin l'opérateur de la souffleuse. Il est alors mentionné que lors de l'événement, il travaillait en collaboration avec un signaleur qui a pour tâche de l'avertir en cas de besoin. Ce dernier se trouve en tout temps une dizaine de mètres devant. Il a été admis en cour par Saguenay que le signaleur avait bel et bien vu la dame arriver à son domicile. Cependant, l'opérateur de la souffleuse a indiqué n'avoir reçu aucun avertissement de la part du signaleur, comme quoi il y avait une personne susceptible de recevoir la neige projetée par son appareil. Voix libre pour les poêles à bois, malgré le smog, c'est dans le soleil. Annie Morin qui signe le texte. Épisode de smog ou pas, la Ville de Québec n'a pas l'intention d'interdire l'utilisation des poêles à bois. Interrogé mercredi sur la mauvaise qualité de l'air qui persiste dans la région, le maire de Québec était au courant des demandes de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique pour une interdiction des poêles et des foyers au bois en période de smog. On n'est pas très avancé là-dedans. On ne l'a pas fait encore, a d'abord commenté Régis Labeaume. Veut-il procéder? On n'a pas vécu autant d'épisodes au total qu'à Montréal. C'est assez exceptionnel à Québec, a-t-il répondu après avoir poussé un gros soupir. On a décidé, jusqu'à date, qu'on ne bougeait pas. La Ville de Montréal a adopté en 2015 un règlement municipal interdisant d'utiliser un poêle ou un foyer au bois quand Environnement Canada lance un avertissement de smog. C'est une question de santé publique puisque les particules fines libérées lors de la combustion peuvent causer asthme et bronchite, particulièrement chez les personnes vulnérables. La ville de Lévis, touchée elle aussi par une alerte de smog pendant quelques jours, n'a pas non plus de réglementation en ce sens. Il a été impossible de savoir mercredi si elle souhaitait s'en doter. Lundi, la direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a diffusé un communiqué de presse demandant l'aide du public. S'il ne représente pas l'unique moyen de chauffage en saison froide, nous invitons les citoyens des villes et municipalités à éviter d'utiliser leurs poêles ou foyers au bois pendant les périodes de mauvaise qualité de l'air. Et pour terminer, une pelle grenouille tardive, c'est dans le soleil, Marc Allard. Ce n'est pas parce que la pelle grenouille n'était pas disponible que les sinistrés de Duberger-les-Saules ont dû attendre jusqu'à mercredi pour qu'elle commence à défaire l'embâcle sur la rivière Saint-Charles, mais parce que la Ville de Québec a mis 3 jours avant de la demander. Merci d'écouter Canal M de Vues et Voix. C'est l'émission Le quotidien des quotidiens avec Hélène Denis qui se poursuit à venir les actualités culturelles. Restez avec nous.
suis. Je suis de n'importe où. Tu me demandes où je vais. Je vais très bien. La question idiote, réponse idiote. Apprends la leçon. Je fais.
Daniel Bélanger et sa chanson « Rêver mieux ».
Les actualités culturelles et les questions de télé, beaucoup dans les pages culturelles des journaux montréalais. En décembre dernier, Véronique Cloutier rayonnait de bonheur alors qu'elle recevait les journalistes dans le décor de « Première fois ». Émission de variété carburant à la nostalgie, aux surprises, aux fous rires et aux émotions. Dans ses propos, aucune trace d'amertume quant au ratage de votre beau programme. De son propre aveu, l'enthousiaste animatrice a mûri, a appris de cet échec et a amplement eu le temps de panser ses plaies. C'est Manon Dumais qui fait cette entrevue. C'est donc confiante en cette émission conçue par Pierre-Louis Théberge, Laberge, dis-je bien, qui a réalisé Entrée principale, Deux hommes en or, avec qui elle travaille pour la première fois et qui coproduit l'émission avec KO TV, que Véronique Cloutier est apparue au Studio 42. Alors Pierre-Louis Laberge est plutôt un coproducteur. Il faut dire qu'elle y est comme un poisson dans l'eau. Ça fait 20 ans que je suis à Radio-Canada et ça fait 20 ans que je fais mes émissions dans le Studio 42, sauf mon talk show qui était enregistré au Studio 47. C'est comme mon sous-sol. On a deux émissions déjà enregistrées, on en fait deux autres cette semaine et pour l'instant, je suis ravie du résultat. Je l'ai montré à quelques personnes, les gens crient, rient, on ratisse très large dans l'émotion. Ce qu'on ressent quand le monde la regarde, c'est exactement ce que je voulais faire vivre. Je n'avais pas réussi à le faire l'an dernier avec votre beau programme, je suis persuadée que je ne revivrai pas ça et j'en suis très contente. Si le mot émotion est revenu souvent au cours de la rencontre, l'animatrice se défend de miser sur les larmes de ses invités. Ce qu'on veut, c'est vivre toute la palette d'émotions. Et si l'artiste pleure, ça donne un bon moment. Et c'est le fun. Première fois à Radio-Canada, c'est ce soir à 20h. Télé toujours, les confessions télé de Rousseau, c'est dans la presse Hugo Dumas qui a rencontré Stéphane Rousseau. Oui, Stéphane Rousseau avait acquis les droits d'utilisation du titre « Appelez-moi Stéphane », la comédie grinçante de Claude Meunier et Louis Saya qui fêtera bientôt ses 40 ans. Voilà un nom parfait pour le talk show qu'il développait en secret pour la chaîne V, pensait-il. Erreur, le titre n'a pas été retenu par tout le monde. Il ne faisait pas l'unanimité. Alors, on en cherche un meilleur, m'explique Stéphane Rousseau au bout du fil. Après avoir cogité pendant plusieurs mois, V a finalement confirmé hier que le créateur de Madame Jagger se visserait derrière le pupitre de son nouveau talk show de fin de soirée, dont la mise à feu a été programmée le lundi 5 mars à 22h. On ne va pas réinventer la roue. Éric Salvaille a fait une très bonne job. Il était très actif sur les réseaux sociaux. Il était très efficace, a dit Stéphane Rousseau. Contrairement à Éric Salvaille, qui présentait en mode Salvaille en direct deux soirs sur quatre par semaine, Stéphane Rousseau préenregistrera toutes ses émissions toujours à l'Astral, dans un décor qu'il décrit comme un chalet chic. « J'aime le beau, j'aime la ville et j'aime la campagne. Ce sera un peu de tout ça », décrit la nouvelle tête d'affiche de V. Des auditions se tiennent actuellement pour trouver une sidekick à l'animateur. « J'aimerais ça que ce soit une femme », insiste-t-il. Un Ben jouera tous les soirs en studio et Rousseau réserve également des sketchs, du contenu original et d'autres surprises aux téléspectateurs qui préfèrent consommer des variétés plutôt que des nouvelles à 22 heures. Une portion de quelques minutes pourrait même être allouée à des humoristes de la relève qui désirent casser des numéros devant public, comme au bordel. Stéphane Rousseau, 51 ans, ne cache pas son amour pour les Johnny Carson, Jimmy Fallon, Stephen Colbert, David Letterman et Ellen DeGeneres. Son émission, toujours en état de création, reflétera cette américanité sans toutefois copier la dynamique de l'esthétique installée par Jean-Philippe Vautier et Rebecca McConnell au Beau Dimanche de Radio-Canada cet été. Et on revient sur le spectacle d'Yves Pépeltier, ex Roque Belles Oreilles, qui était en première hier soir dans la presse. Chantal Guy a plutôt aimé. Et dans le Journal de Montréal, c'est le texte de Caroline Vigean que je vais vous lire. Drôle et disjoncté, Yves Pépeltier n'a rien perdu de son humour. On avait hâte de découvrir ce « moi » d'Yves Pépeltier. « Moi, point d'interrogation », c'est le titre de son spectacle, qui, à 57 ans, a baptisé hier son tout premier one-man show au Monument national, et on avait bien raison. Depuis l'annonce de ce premier effort qui s'ajoute à une feuille de route déjà bien garnie, Yves Pépeltier nous a prévenu qu'il allait partager la scène avec ses personnages qui ont fait les beaux jours de RBO. Ceux-ci, toutefois, ne lui font jamais ombrage. L'humoriste s'amène devant nous en crise existentielle, mais en plein contrôle. Comme le titre l'indique, la quête identitaire sert de point de départ. À voir Yves Pépeltier jongler avec ses personnages depuis plus de 35 ans. Ses voix dans sa tête, s'étonnerait-on qu'il souffre du trouble de la personnalité? Et c'est exactement la pente savonneuse qu'il emprunte. Qu'en est-il de lui, au juste? Le timide, la bibitte bizarre, drama queen et hypersensible. Est-il fou, s'interroge-t-il? Jusqu'à la fin du spectacle, on n'en sait rien, sinon que ses tranches de vie de semi-vérité sont rythmées et disjonctées. Bien sûr, on prend un malin plaisir à renouer avec l'extraterrestre Stromgol, de passage sur le plateau de Demi-l'évêque. chers sillachons et sa gymnastique linguistique ont eux aussi donné lieu à de joyeuses retrouvailles, tout comme son Swami Fréchette et Capharnaüm dans un savoureux numéro sur la religion. Moi, point d'interrogation, est présenté au Monument national les 18, 19 janvier et 20 avril. Dans la presse, Monique Simard pressentie à la tête de Téléfilm Canada. Contactée par une firme de chasseurs de têtes pas plus tard qu'hier au sujet de la direction bientôt vacante de Téléfilm Canada, l'ex-présidente de la SODEC, Monique Simard, dit songer sérieusement à présenter sa candidature. « Je vais dîner avec Carole Brabant, directrice sortante de Téléfilm, vendredi, dit-elle en entrevue téléphonique. On s'aime beaucoup et on a déjà bien travaillé ensemble. » Comme disait mon mentor à la CSN dans le temps, Marcel Pépin, « Si tu veux être frappé, faut rester dans le trafic. » The Beach Boys à Juste pour rire. Le festival Juste pour rire est toujours à la recherche d'un nouveau propriétaire, mais il va de l'avant avec sa 36e édition du 14 au 28 juillet. Il annonçait un grand coup hier, soit la venue du groupe de Beach Boys pour un spectacle extérieur gratuit. Même Brian Wilson sera présent, a confirmé après vérification une attachée de presse, de même que les membres Mike Love et Al Jardine. Rappelons que The Beach Boys s'était produit au défunt Mondial Chorale de Laval en 2011 et au Centre Bell en 2012. Brian Wilson a aussi donné un spectacle mémorable en juillet 2016 au Festival de Jazz pour le 50e anniversaire de l'album Pet Sounds. Diminué à la suite d'une longue période de dépression, il avait alors déclaré que ce serait sa dernière tournée. C'est donc une chance inespérée de le revoir à Montréal cet été. Le festival Juste pour rire a aussi confirmé certains éléments de sa programmation extérieure. L'événement jeunesse animé par Pascal Morissette, le spectacle de Mado Lamotte, ainsi que la présence de nombreux restaurateurs et camions de cuisine de rue. Il y aura aussi des DJ pendant la nuit sur l'esplanade de la Place des Arts. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Now, softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up she's by my excitation. Good vibration.
celebrations a half man wither. Gotta keep those pumpkin vibrations a half man wither. Gotta keep those pumpkin vibrations.
C'était les Beach Boys, évidemment, et leur chanson « Good Vibration ».
J'ai bien aimé votre présentation, Mathieu.
En fait, j'allais tousser, mais...
Avec un effet de vibration. Alors, allons-y donc avec ce segment libre « Sauver la planète, une paille à la fois », Émilie Bilodeau. Le mouvement anti-paille prend de l'ampleur aux États-Unis comme au Canada. Des restaurants et des bars cessent de mettre des pailles en plastique dans leurs cocktails et des personnalités comme le hockeyeur Eric Carlson et l'acteur Adrien Grenier s'en mêlent et font campagne sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour sauver la planète. C'est dans la presse d'aujourd'hui, section pause repas. Les pailles en plastique servies avec des jus et des boissons gazeuses ou des cocktails causent un énorme problème environnemental, affirme Louise Hénault-Étier, chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki. On utilise les pailles en plastique en moyenne 20 minutes et on les jette. Elles sont faites d'un plastique qui n'est pas biodégradable. On leur ajoute des colorants, des plastifiants, des filtres ultraviolets. Elles sont hyper toxiques et ne se dégradent pas dans l'environnement, dit-elle. Plusieurs campagnes comme MoClick Stop Sucking, MoClick Straws Suck et Straw Wars circulent depuis quelques années sur les réseaux sociaux. Selon le groupe de Last Plastic Straws, environ 500 millions de pailles seraient jetées chaque jour aux États-Unis, une quantité suffisante pour faire deux fois et demi le tour de la planète. Les pailles en plastique figureraient également parmi le palmarès peu glorieux des 10 objets les plus ramassés sur les plages. Une paille de plastique, ce n'est absolument pas recyclable. Seulement quelques-unes sont faites de polypropylène, une matière recyclable, mais les centres de tri peinent à les mettre de côté puisqu'elles sont trop petites, dit Louise Hénault-Étier, chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki. Dans l'océan, les poissons confondent les pailles avec de la nourriture et des animaux marins se retrouvent avec des tuyaux colorés dans leur voie respiratoire ou leur estomac. Une ville sans paille, la ville de Tofino, en Colombie-Britannique, est toutefois devenue un modèle en éradiquant complètement les pailles de plastique de ses 41 cafés, restaurants et bars. Si un client en fait la demande, les serveurs optent pour une version en papier depuis 2016. Certaines entreprises ont été plus difficiles à convaincre, mais la plupart étaient réceptives. Notre village est encerclé par l'océan. Nous sommes donc conscients de son importance pour notre économie, notre culture et notre bien-être, raconte Lily Woodbury, directrice de la Surf Rider Foundation Pacific Rim Chapter, l'organisme derrière la campagne Straws Suck. Le mot clé, Straws Suck, a d'ailleurs été partagé plus de 9 millions de fois sur les réseaux sociaux. Des villes comme Vancouver, San Francisco, Wellington en Nouvelle-Zélande et Guelph en Ontario ont demandé des conseils à la municipalité de 1875 habitants afin de suivre son exemple. On est une toute petite ville qui a réussi à inspirer des plus grandes. Ça prouve que chaque personne peut faire une différence. Si vos amis, votre famille et vos collègues voient que vous ne buvez plus avec une paille, ils vont poser des questions et le message va finir par se relayer, dit Mme Woodbury. À Montréal, quelques établissements comme le Quatrième Mur et le Teddy Bar servent des pailles en carton recyclé seulement aux clients qui en exigent. Au bar Georges, qui est aussi en voie d'éliminer les pailles en plastique, beaucoup de clients en demandent pour siroter leur Bloody Caesar ou leur Margarita. Mais dans 90 % des cas, ils comprennent nos arguments, dit Maxime Boivin, mixologue en chef de l'établissement de la rue Drummond. On n'est pas là pour faire la morale à nos clients, explique-t-il. On essaie parfois d'avoir une approche humoristique pour sensibiliser nos invités. Une paille, ce n'est pas nécessaire, et à la quantité qu'on consomme, ça peut aller vite. Dans une soirée, si tout le monde boit 5 drinks avec 5 pailles, on peut facilement faire un changement. Le bar Georges espère bientôt remplacer les pailles en plastique par des versions en papier sans agent blanchissant, ni encre pour satisfaire les clients qui tiennent leur bout. Parce que des fois, entretenir son rouge à lèvres, c'est plus important que de sauver la planète, dit M. Boivin avec ironie. Cette adresse pour un bon chocolat chaud, c'est dans la section saveurs, Marie-Lee Baudin dans le Journal de Montréal. Le froid polaire nous a un peu échevelés ces dernières semaines, mais heureusement, plusieurs adresses vous offriront de quoi se réchauffer le cœur à petit prix durant la grande tournée du chocolat chaud du 20 au 28 janvier. Voici nos 7 coups de cœur. Alors allons-y donc avec le premier coup de cœur, boulangerie Off Kelston. Pourtant, je la connais, cette boulangerie-là. C'est sur Saint-Laurent. Mathieu a son crayon et son papier. Situé au cœur du plateau se trouve un petit bijou de boulangerie où vous trouverez de délicieux chocos chauds. Elle est reconnue pour ses panettones et ses viennoiseries. Profitez-en pour casser la côte au petit matin, 4524 boulevard Saint-Laurent. Deuxième, pâtisserie Rhubarbe. Ses desserts et pâtisseries sont décadents, mais ses chocolats chauds sont une des raisons pour lesquelles on y retourne. Profitez de la grande tournée du chocolat chaud pour découvrir ce trésor de l'avenue Laurier, 1479 avenue Laurier Est. Automne boulangerie. Cette mignonne boulangerie Doma, Hochelaga-Maisonneuve, ouverte depuis 2014, attire les habitants du coin et les curieux qui tombent rapidement sous le charme de l'endroit. Prenez un chocolat chaud et installez-vous confortablement près de la fenêtre pour regarder la neige tomber. 6500 avenue Christophe Colomb. Ensuite, on y va avec numéro 4, Fabrique Aroma. Bien que la réputation de la Fabrique Aroma n'ait plus à faire, on se plaît à y aller pour son pain du jour. Plusieurs compagnies font affaire avec la Fabrique, telles que le Café Kittel, Olivia Chocolat et Lady Tartine, 1700 rue Ontario Est. Cinquième endroit où on peut prendre, entre autres, un bon chocolat chaud, Patrice Pâtissier. Vous serez en bonne main chez Patrice Pâtissier. L'expert en dessert n'a pas lésiné sur l'art du chocolat chaud. Ils sont riches et goûteux. Profitez-en pour vous commander une part de gâteau. Il faut bien se gâter. 2360 rue Notre-Dame-Ouest. Sixième, Dinette Nationale. Dinette Nationale se démarque par ses douceurs sucrées comme sa confiserie et ses pâtisseries. Nougat, pâte de fruits, meringue, sablé, caramel, scone, financier et bien sûr chocolat chaud au 1216 rue Guilford. Finalement, au festin de Babette, si vous n'êtes jamais allé manger au festin de Babette, c'est à mettre sur votre liste pour 2018. Les brunchs copieux viennent toujours avec une salade, un gratin dauphinois et une mousse au chocolat. Si vous êtes gourmand, commandez un chocolat chaud onctueux à souhait, 4085 rue Saint-Denis. Et la grande tournée du chocolat chaud, du 20 au 28 janvier, 25 établissements de la région de Montréal offriront pour 4 $ leur création gourmande à base de chocolat Valrhona. Pour chaque chocolat chaud vendu, 50 cents seront versés au programme de formation de la Table des chefs visant à développer l'éducation culinaire des adolescents. L'événement en est à sa 4e édition et a lieu à travers le Québec. Alors, on se fait plaisir et aussi on fait plaisir en donnant pour une bonne cause. Et ça complète le quotidien des quotidiens de ce jeudi 18 janvier 2018. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été là et qui remercie aussi Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Je vous invite à rester avec nous. Si vous nous écoutez en direct, j'anime les Par actualités dans quelques instants et j'aurai le grand plaisir d'avoir avec moi en studio l'auteur de Ma vie avec l'Asperger, Alexandre Poirier-Charlebois. À tout de suite ou à la prochaine!